Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire, Drôme Ardèche. Aujourd'hui, nous recevons Roland Desbordes de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, plus connue sous son abréviation la CRIRAD. Mais avant cet entretien, nos billettistes ont des choses à vous dire, n'est-ce pas Agnès ? Ainsi, au début juin, au lendemain du premier tour des législatives, et malgré les promesses de baisse de 25% du nucléaire en France, François Hollande a pris la décision d'accélérer la coopération entre Areva et le Niger.
Oui, bonjour. Lors de la première émission, nous avions interviewé Michaël Granvaux au sujet de son livre « Areva en Afrique », où il dénonce le scandale de l'exploitation de l'uranium. Nous ne pensions pas être à ce point au cœur de l'actualité nucléaire française. Il aura fallu seulement quelques semaines de mandat présidentiel à François Hollande pour que lors d'une rencontre le 15 juin avec le nouveau président nigérien Issoufou, celui-ci donne un avis favorable à l'accélération de l'exploitation de la mine d'uranium géante d'Imouraren. Ce qui en revient, en fait, à signer un chèque en blanc à Areva sous prétexte d'encourager le développement et l'économie. Rappelons que ce site d'Imouraren, exploité depuis 2009, est considéré comme l'une des réserves d'uranium les plus importantes du monde. On parle de mine géante, un site de près de 200 km² pour 5000 tonnes de minerais pendant 35 ans, ce qui permettra à Areva de devenir exportateur. Areva se positionne en sauveur des populations locales, déjà très affaiblies par les invasions de criquets et la sécheresse, ce qui lui donne bonne conscience pour payer, pour piller à bas coût les ressources d'un pays qui lui fournit un tiers de sa production. Le fait qu'Areva accepte aujourd'hui de doubler le prix qu'elle paie le minerai donne une idée de l'ampleur du manque à gagner pour ces pays d'Afrique depuis les années 60, mais ne donne aucune garantie sur les retombées futures pour les populations locales. Pour l'association Survie, l'exploitation de l'uranium en Afrique est une catastrophe économique, écologique, sanitaire et sociale. La soi-disant autonomie énergétique de la France relève de procédés dignes du colonialisme. Le Niger reste l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et aujourd'hui, à la sécheresse et la famine qui sévit, s'ajoutent la pollution, la maladie, l'épuisement des ressources en eau. Pour donner des exemples, la seule mine d'Imouraren emploie 3000 travailleurs qui, parce qu'ils ne peuvent se doucher, rapportent chaque jour chez eux les poussières d'uranium, contaminent leurs enfants, leur habitat, leur famille. L'exploitation de l'uranium épuise et pollue les nappes phréatiques, chassant irrémédiablement les populations touareg et leurs élevages. Bien sûr, la rébellion s'organise sur place, mais Areva est accusé de soutenir cette rébellion pour empêcher la concurrence de s'installer dans la région. Dans une prochaine émission, nous évoquerons l'installation des 6 EPR sur le site de Jaitapur en Inde, où là aussi la France, le pays des droits de l'homme, chasse les habitants et détruit leur cadre de vie dans une zone à fort risque sismique. Hormis le danger que représente le nucléaire, le seul fait que notre confort matériel dépende de la disparition programmée de populations entières me fait froid dans le dos.
Eh bien, Agnès, suite à ces promesses qui ont été faites et qui sont manifestement pas tenues, moi j'ai aussi un billet de colère. Je vais vous entretenir des nouveaux prestidigitateurs de la recherche et des bailleurs de fonds prêts à tout pour nous maintenir dans l'ère nucléaire. Le coût du nucléaire est, on le sait, très nettement sous-évalué. Construction de centrales, exploitation des mines d'uranium, retraitement des combustibles, démontage des réacteurs en fin d'âge, gestion des déchets, autant d'activités coûteuses et non incluses dans le budget d'EDF et d'Areva. On oublie dans cette liste la recherche. Areva et EDF monopolisent la quasi-totalité des budgets de recherche en matière d'énergie au détriment de la recherche pour les énergies renouvelables. qu'elle ne fut pas, donc notre stupéfaction, et on peut dire colère, lorsqu'une dépêche fin mai 2012 nous apprenait que l'Union européenne venait d'attribuer 1,3 million d'euros sur 5 ans à des expériences de détournement des ondes sismiques. Alors, avant de détailler, un petit rappel. La vallée du Rhône est une zone sismique dite à risque. Risque modéré, mais bien présent. Par exemple, lors de la conception de la centrale du Tricastin, c'est le séisme de Clamseil dans la Drôme qui a été choisi comme référence. Survenu en 1873, il a atteint 4,7 sur l'échelle de Richter. Les concepteurs de Tricastin ont choisi de doubler cette intensité et de prévoir des installations capables de résister à un séisme de 5,2, bon, sachant que l'échelle de Richter n'est pas linéaire mais logarithmique. Le bémol. À une centaine de kilomètres de Tricastin, à Lambesc, un séisme dévastateur de 6,2 a été enregistré en 1909. Le Tricastin résisterait-il à une nouvelle catastrophe de même ampleur? D'où l'idée, après Fukushima, d'essayer de dévier les ondes sismiques des sites particulièrement fragiles comme les installations nucléaires. Les chercheurs de l'Institut Fresnel de Marseille pensent avoir trouvé la solution. En effet, ils ont constaté qu'après avoir perforé des petits trous à la périphérie d'une surface de plexiglas et l'avoir fait vibrer, les ondes ne se répandaient pas vers le centre de la plaque. Elles font du saute-mouton de trou en trou, leur trajectoire pourrait donc être ainsi dirigée. Une expérience à grande échelle a été menée en juin. L'entreprise privée Vinci a creusé des colonnes de 30 mètres de profondeur pour 1 mètre de diamètre sur un terrain de 5000 m². Il a suffi ensuite de provoquer un micro-séisme à l'aide d'une chute de cloche de 30 tonnes pour observer si la diffusion des ondes est conforme aux prévisions. On ne connaît pas encore le résultat de cette expérience fort coûteuse. Mais ne serait-il pas judicieux de cesser de jouer avec la sécurité des populations et la crédulité des médias et d'investir ces sommes et ces chercheurs dans le développement d'autres sources d'énergie?
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Cette chose sans vie.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure.
Eh bien, après ce petit, ces billets d'humeur et chant Eridan, nous allons pouvoir parler avec Roland Desbordes de la Crirade.
Très rapidement, Roland, peux-tu nous rappeler à nos auditeurs l'origine et les objectifs de la Crirade ?
La Crirade est née il y a 26 ans maintenant. Elle est née dans la Drôme. Elle est née à cause de Tchernobyl. Pas à la cause du mensonge sur la présence du nuage sur la France. Ça, ce mensonge-là, il n'a pas duré très longtemps. Par contre, c'est un mensonge qui a duré très longtemps. Lui, c'est sur la radioactivité qu'a laissé ce nuage. Et si on voulait retrouver la radioactivité du nuage, ben, le meilleur moyen, c'était de monter un labo. C'est ce qu'on a fait en 86. On a monté un laboratoire. Et le premier objectif, c'était retrouver les retombées de Tchernobyl sur la France. C'est un boulot qu'on a fait tout de suite. Rapidement et qui nous a permis de montrer que le nuage était bien passé, qu'il avait laissé de la radioactivité et qu'on aurait dû prendre des mesures de protection des populations, chose qu'on n'a pas faite. Et c'est pour ça que on a porté plainte contre l'État français, on a essayé de faire des recours. Mais aujourd'hui, j'estime que personne n'a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 86. Et malheureusement, la justice, qui a été sollicitée pour se prononcer là-dessus, ne le fera pas, puisque les plaintes qu'on a déposées, que les malades de la thyroïde, entre autres, ont été classées par la justice. Donc, nos enfants ne sauront pas qui est responsable de ce qui s'est passé en 86. Et ça, ça me gêne vraiment. Il y a encore quelque chose à faire.
J'entends bien. Et je pense qu'il y a aussi à faire sur Fukushima. J'ai une question. Là. Le tremblement de terre et le tsunami ensuite ont laissé 20 000 morts et disparus. Détruit villes et villages et endommagé 4 des 6 réacteurs de la centrale de Fukushima. Que s'est-il passé exactement dans la centrale ?
Il est très difficile, il a été très difficile, comme en 86, de savoir ce qui se passe sur place au moment où ça se passe. Parce qu'on comprend bien qu'on est dans une catastrophe. Et là, c'est vrai que les Japonais venaient de prendre un gros séisme et un tsunami sur la figure quand les problèmes ont commencé à apparaître dans la centrale. Donc on peut comprendre ça. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est que les autorités japonaises, une fois que l'eau s'était retirée, on s'est aperçu c'est qu'elles avaient très mal anticipé ce genre d'événement, alors qu'on est en bord de mer, qu'on a décidé des tsunamis. Le mot est japonais, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, le mot tsunami. Eh bien, ils avaient très très mal préparé, anticipé ce genre d'événement. Un, donc ils n'étaient pas prêts. Et deux, surtout, ils ont géré la situation de manière complètement invraisemblable, c'est-à-dire que au lieu de prendre les mesures qu'il fallait, parce que l'arrêt du réacteur, il s'est fait. Simplement, tout le monde sait très bien que si vous n'assurez pas un refroidissement minimum de la chaleur résiduelle du cœur, tout part vers l'inéluctable. L'inéluctable, c'est-à-dire les explosions, les problèmes derrière. Les fusions du cœur. Donc on arrive, vers ça. Tout le monde le sait. Et là, les Japonais avaient peu de temps, mais ils avaient parfaitement les moyens d'amener des groupes électrogènes de secours, de tirer une ligne électrique. On est en bord de mer, on a de l'eau. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour ne pas aller vers la catastrophe. Et là, TEPCO a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'a pas cru à la catastrophe. Alors que tout le monde le sait, il n'y a pas cru. Je crois même que, on en saura peut-être plus tard, c'est qu'il a cru, il n'a pas voulu faire des interventions sur les réacteurs en pensant qu'il allait les redémarrer bientôt. Ce qui veut dire qu'il ne fallait pas mettre de l'eau salée, de l'eau de mer, dans les installations, sinon évidemment ça corrode un peu tous les circuits. Et pour des raisons purement économiques, ils ont dit on va sauver les réacteurs. Et pour ça, on ne va pas mettre de l'eau de mer. Et ils ont surestimé très largement leur capacité à maîtriser la situation. Donc il y a vraiment un péché d'orgueil, là, de la part de TEPCO. Et alors après, de la part des autorités japonaises, ils n'ont pas du tout anticipé la suite, c'est-à-dire les rejets massifs, la distribution d'iode stable, l'évacuation, la mise à l'abri des populations. Tout ça s'est fait dans du n'importe comment. Évidemment, très en retard, trop en retard, pour protéger les populations. Or, dans ces situations-là, évidemment, tout n'est pas simple, mais tout le monde est d'accord, il faut anticiper ce qui va se passer si on veut protéger les gens. Moins vous anticipez, plus il y aura de dégâts. Et forcément, on est là dans cette situation.
Oui, Georges, je vais revenir un petit peu sur les conséquences, mais quand même une question. Contrairement à Tchernobyl, voire même à Three Mile Island, au Japon, on n'a pas un seul réacteur, on a donc plusieurs réacteurs qui ont été touchés. Et est-ce qu'ils ont été touchés de la même façon ou est-ce qu'il y a plusieurs dangers, en fait, réacteur par réacteur?
C'est vrai qu'on est sur une énorme centrale nucléaire et plusieurs réacteurs ont été touchés. Plus une piscine, c'est-à-dire un bâtiment dans lequel on entrepose des cœurs de réacteurs usés, entre guillemets usés, c'est-à-dire qui ont déjà fonctionné, donc hautement radioactifs. Donc il y a plusieurs sortes de dommages qui ont été créés sur les réacteurs. C'est vrai que l'ampleur, je dirais, la potentialité de nuisance, elle est bien supérieure à Tchernobyl, elle est bien supérieure à Three Mile Island. En ce sens-là, les Japonais auraient dû en prendre conscience, ça. On a un potentiel de nuisance incroyable, là, et qui n'a pas fini de s'exprimer encore aujourd'hui. Et cette situation-là, mais elle n'était pas, je dirais, en soi, inéluctable. Si les Japonais avaient, à la suite de l'arrêt des réacteurs, pu assurer ce refroidissement, consolider la piscine des bâtiments combustibles du numéro 4, s'ils avaient pu, etc., ils pouvaient récupérer la main. Ce n'était pas impossible. À partir du moment où vous le savez, vous ne prenez pas certaines décisions rapidement, vous savez que là, c'est irréversible. Vous allez vers la perte du contrôle total du réacteur. Quand un réacteur est arrêté et qu'il s'agit simplement de le refroidir avec une petite puissance électrique et une petite quantité d'eau, c'était ça qu'il fallait. Et que vous ne le faites pas, vous allez au-devant de tous les ennuis derrière. Et ça, les Japonais, je pense qu'il y a eu peut-être la présomption, je ne sais pas, ils n'y ont pas cru, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Et comme ils n'ont pas communiqué là-dessus, il n'y a pas eu des vraies commissions d'enquête aujourd'hui, on n'en saura certainement pas beaucoup plus demain. Hein.
Et au niveau de la suite de la gestion des conséquences, au niveau des territoires, des animaux et des populations?
Alors ça, c'est le problème des autorités japonaises, que là, c'est ce que j'ai un tout petit peu anticipé en disant qu'est-ce qu'on fait une fois que l'accident a eu lieu, hein. Tout le monde vous dira, c'est difficile, là aussi, c'est difficile, c'est pas simple. Mais par contre, il y a des règles quand même. On dit on éloigne les populations, donc on met à l'abri, on éloigne, on distribue l'iode stable. Rien de tout ça n'a été fait dans les délais voulus, rien. Les éloignements ont été tardifs, les distributions d'iode stable pratiquement aucune. Les quelques maires qui ont essayé de prendre des initiatives, ils se sont fait taper sur les doigts par les préfets. Il y a bien eu une négligence incroyable des autorités japonaises. Là, il faudrait qu'elles rendent des comptes parce que ça, il y a des témoins, tout ça. Il y a des témoins. Ce qui s'est passé à l'intérieur de l'installation, on ne saura peut-être pas. Par contre, à l'extérieur, les populations commencent à monter au créneau, à se rebeller, à dire, nous, on va demander des comptes. Hein. Il y a des commissions d'enquête. J'espère qu'elles vont aboutir, parce que là, il y a eu vraiment un manque incroyable des autorités. Alors, évidemment, on a entendu de la part des autorités japonaises, mais ça, on a l'habitude, c'est que c'est pas grave tout ça, cette radioactivité, c'est équivalent à un petit voyage en avion ou à un scanner à l'hôpital ou je sais pas quoi. On a entendu des trucs invraisemblables, mais on a l'habitude de ce genre de choses. Mais si au moins les autorités prennent les mesures qu'il faut pour protéger. Si le discours il n'est pas adapté, bon, il n'est pas adapté. Hein. Mais par contre, si c'est les mesures concrètes qui comptent. Et ça, il n'y en a pas eu. Et on est plus d'un an après, et il y a des gens qui continuent à vivre dans ces zones-là, qui n'ont pas été évacués. Et alors là, c'est une leçon de Tchernobyl de la part de nos autorités nationales et internationales. C'est on arrive à convaincre, à persuader des populations qu'on peut vivre en zone contaminée. Moi, je trouve ça criminel. Bon, elle ne le trouve pas. Mais pourquoi on le fait ça? Parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. Évacuer des populations, ben, il faut les reloger, il faut leur apporter de l'emploi, de la nourriture, etc. Et oui, il faut. Les Russes l'ont fait. Les Russes, ils ont évacué 20 000 personnes en une journée à Pripyat. ils ont construit des logements dans une autre ville. Ils ont construit une autre ville complètement en dehors de la zone. Les Japonais n'en ont même pas été capables de ça. Pour ça, je pense que les Russes, ils ont fait des bêtises énormes avant, au moment de l'accident. Tchernobyl, c'est d'abord l'erreur humaine. C'est l'exploitant qui fait une grosse bêtise là, au départ. Fukushima, il y a quand même un tsunami, un séisme avant, hein, il faut bien reconnaître. Mais n'empêche que les Russes, après l'accident, ils ont fait beaucoup plus, beaucoup mieux. C'était pas parfait, loin de là, hein, mais beaucoup mieux que les Japonais. Minasan gata no naka ni Tokyo denryoku ni hairitai hito wa imasen ka? Hito hata agetai hito wa imasen ka? Todenja jinzai motomete masu. Toden ni hairo, hairo, hairo. Toden ni haireba kono yo wa tengoku. Otoko no naka no otoko wa minna Toden ni haitte hana to chiru. Suriru o ajiwaitai hito itara Ichidemo toden ni okoshi kudasai Uran demo plutonium demo nan demo arimasu yo Shida uke tsukaeba heiki desu Toden ni hairo, hairo, hairo Toden ni haireba kono yo wa tengoku Otoko no naka no otoko wa minna Toden ni haitte hana to chiru Patsu suishin ha no minasan wa Kenshiro no mashita ni o atsumari kudasai Imasugu karada ni warui wake ja arimasen Shawa de araeba heiki desu Toden ni hairo, hairo, hairo Toden ni haireba kono yo wa tengoku Otoko no naka no otoko wa minna Toden ni haitte hana tochiru Genpatsu wa clean na energy desu Plutonium wa sonna ni kowai mon ja arimasen Osha no dasu to ittemo hangenki wa Tatta no 2万 to 4000 nen desu Toden ni hairo, hairo, hairo Toden ni haireba kono yo wa tengoku Otoko no naka no otoko wa minna Toden ni haitte hana to chiru Otoko wa minna Toden ni haitte
Pour revenir à la gestion des populations, il a été défini une zone de 20 km sur laquelle on a appliqué une norme de 100 millisieverts. Est-ce que tu peux expliquer?
Les règles d'évacuation ou de, en théorie, tous en cas d'accident, ce qui est écrit dans les textes, c'est quand on estime, quand le préfet, parce que ce n'est pas la CRIRAD qui décide ni le maire, c'est le préfet, c'est-à-dire l'État, le garant de l'ordre public qui décide évacuation ou pas évacuation. Ce qui est écrit dans les textes, c'est que quand les populations sont susceptibles de recevoir des doses de 50 millisieverts à la thyroïde, on doit les évacuer. Alors, des fois, c'est 50, des fois, c'est 100, des fois, c'est 20. Alors, suivant les textes, d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que c'est 50 aux enfants ou aux adultes? Bon, en gros, on dit, ben, si... là, c'est très difficile de faire ça. Pourquoi? Parce que... pour pouvoir évaluer la dose que recevra la population. Il faut connaître parfaitement la situation de l'air, de la radioactivité dans l'air, combien il y en a dans l'air, combien il y en a dans le sol, combien il y en a dans le jardin, combien il y en a dans le lait, combien il faut faire ce bilan-là. Comment voulez-vous, dans une catastrophe, alors que c'est en cours, là, déterminer quelle sera la dose que va recevoir la population ? Et par exemple, l'évaluation qui a été faite par l'IRSN français de la situation là-bas, à ce moment-là, c'est-à-dire dans le moment critique où chaque jour compte, chaque heure compte, eh bien, l'évaluation de l'IRSN, c'était, il n'est pas du tout nécessaire d'évacuer, même en dehors de la centrale même, quelques kilomètres autour. L'évaluation qui était faite, évidemment, sur des à partir de chiffres qui étaient totalement fantaisistes, parce qu'on n'avait pas de chiffres. Eh bien, on ne fait pas d'évaluation quand on n'a pas de chiffres, je suis désolé. Nous, on n'en a pas fait, on ne se permet pas ce genre de choses. Pour faire une évaluation de la dose, il faut avoir des chiffres sérieux. À partir de là, vous faites des calculs. Bon. Là, on n'a pas de chiffres, on fait des calculs en disant « Ah, ben tiens, moins de 50 millisieverts, donc ce n'est même pas la peine d'évacuer. » L'IRSN sort ce document-là en plein moment où les autorités japonaises, justement, se tâtaient en disant « On évacue ou on n'évacue pas ?» Eh bien, ce rapport de l'IRSN de cette époque-là, pour moi, il est criminel. Ça, je nous renvoie la responsabilité, à nous, la France, qui avons permis ce genre de choses. Après, il y a les autorités japonaises, mais qui sont responsables aussi, évidemment. Ça les arrangeait bien de ne pas évacuer dans les délais les plus rapides. Et ça les arrangeait bien. C'est pour ça que cette évacuation était tardive. Mais en cas de crise, nous, par exemple, ce qu'on veut, c'est pas travailler comme ça. Je sais que ça, c'est les textes officiels. Mais nous, on estime que ça, c'est vraiment le coup tordu pour ne pas évacuer les gens. Parce que vous pouvez faire ce calcul, évidemment, vous tomberez sur des résultats complètement n'importe quoi, qui vous permettra de dire, ben oui, c'est pas la peine d'évacuer. Hein. C'est ce qu'ils ont fait, les Japonais. C'est pas la peine d'évacuer. Puis après, devant la réalité, ils ont dit, ben, on va peut-être évacuer 10 km, puis 20 km. Puis après, une zone d'évacuation volontaire. Ça veut dire quoi, ça? Entre 20 et 30 km. Évacuation volontaire, c'est quoi? Là, vous torturez les gens, là, carrément. Vous leur dites, ah oui, vous pouvez partir. Oui, mais vous vous débrouillez. Hein. C'est ça, l'évacuation volontaire. Vous débrouillez tout seul. Vous renvoyez la responsabilité sur les gens, alors que les gens, ils sont responsables de rien. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans des situations comme ça, parce que nous, on serait dans la même situation, nous, dans la ville du Rhône, hein, c'est exactement pareil. Le préfet aura le même discours. Ce matin, j'étais à Avignon, à une commission locale d'information. Il y avait le préfet, le sous-préfet de Nyons de la Drôme, et on parlait de ce genre de choses. Elle a dit, ah, mais il ne faut pas vous inquiéter pour les comprimés de diode stable, on vous dira quand les prendre. Il faudra. Nous, on fait nos calculs. Si les doses à la thyroïde dépassent 50 millisieverts, eh bien, on vous dira de prendre des comprimés d'iode. Mais surtout, vous ne les prenez pas avant, hein, parce que c'est nous qui décidons. C'est moi, préfet, qui décide. Hein. Vous n'avez pas le droit de les prendre avant. Bon, ça, j'estime que c'est déjà un abus de pouvoir. C'est se protéger soi-même. Hein. Comment il peut faire ce calcul, le préfet? Comment il peut savoir qu'on n'aura pas plus dans la zone, que 50 millisieverts à la Curicon, il peut savoir. Là, on n'est pas en situation d'accident aujourd'hui. Bon. Donc, on discute de ça calmement. Hein, on n'est pas sous le stress, on n'a pas la pression des médias. Bon, on discute autour d'une table. C'est très bien. Mais en situation de crise, hein, on n'a pas le temps de discuter comme ça. Il faut que les règles soient claires. Alors, cette règle-là, elle est inapplicable, la règle des 50 millisieverts. Elle est inapplicable parce qu'elle est interprétable de 36 manières. Vous aurez toujours des experts qui disent « Ah non, 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 moi j'ai fait mon calcul, je tombe sur ça. » L'autre, il va dire « Non, 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 je tombe sur ça. » C'est pour ça que nous, on demande à ce que, quand il y a la radioactivité dans l'air, de l'iode, parce qu'il y a eu rejet, évidemment, s'il n'y a aucun rejet dans l'environnement, on ne se pose pas la question. Ah ben non, il y a rejet dans l'environnement. Bien. Ça va aller dans l'air d'abord, puis au sol, dans la pluie, sur les salades, dans le lait, etc. Au lieu d'attendre de faire ce calcul en disant « mais oui, mais combien on va retrouver dans le lait ?» Eh bien, qu'on dise ben, « à partir de tant dans l'air, ça c'est mesurable, combien de becquerels par mètre cube d'air, on estime qu'il est normal, je ne parle même pas prudent, je dis normal, de demander la mise à l'abri des populations ?» De demander aux gens de prendre des comprimés d'iode stable, voire d'évacuer les gens. Ça, c'est un chiffre qui est indiscutable. On a un appareil, il est là, il dit il y a tant de becquerels dans l'air, ça s'appelle une balise, on en a dans la Drôme, il y a les exploitants en ont, nous on en a à la CRIRAD avec les collectivités locales. À tant de becquerels par mètre cube d'air en iode 131, on prendra telle mesure. À tant de becquerels, on prendra telle autre mesure, etc. Et là, il n'y a pas de discussion. Ou bien le résultat, il est en dessous de la valeur, ben on ne prend pas la mesure. Ou il est au-dessus, on prend la mesure. Et là, le scénario, je dirais, évitera le cafouillage énorme qui se produira. Parce qu'aujourd'hui, les règles ne sont pas claires.
Et là, c'est un refus catégorique de la préfecture d'analyser avec le taux de Becquerel dans l'air.
C'est tout à fait le préfet qui refuse de donner cet élément-là. C'est ce qu'on appelle un niveau d'intervention. Ils refusent de donner les niveaux d'intervention en France. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une perte de pouvoir. C'est une perte de pouvoir, c'est-à-dire que là, actuellement, ils ont le pouvoir entre les mains puisque c'est eux qui décident en fonction de critères qui ne sont pas clairs, qui sont à la louche, qui sont les leurs. Si on décide d'une règle claire et que nous, on a justement les outils, puisqu'on a des balises, pour contrôler la règle qui est écrite et claire, à tant de Becquerel dans l'air, on fait ça. Il n'a plus de pouvoir, le préfet. Il est obligé d'appliquer. Et ça, évidemment, ils ne le souhaitent pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas fixer ces trucs-là dans l'air. Ils contentent de dire, ah, mais s'il y a suffisamment d'iode dans l'air, on prendra les mesures de protection des populations. Ça veut dire quoi, suffisamment ? Ah, on ne sait pas, il n'y a pas de chiffre. Suffisamment, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça n'a rien de scientifique, ça.
Justement, au niveau des normes de Becquerel dans l'air, est-ce qu'il y aurait un seuil à partir duquel le préfet serait obligé d'évacuer la population ?
Non, justement, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre sur la table.
Hélas,
il n'y a pas de chiffre sur la table officiel, accepté par tout le monde, qui permette de dire, à tant de Becquerel dans l'air, on fait ça. Moi, c'est ça, j'estimerais la règle qui éviterait, peut-être pas le cafouillage, tous les cafouillages, mais enfin, au moins un cafouillage important, c'est quelles sont les contre-mesures qui sont engagées au niveau de la population ? Distribution d'iode, évacuation, confinement, interdire les sorties scolaires, anticiper sur la contamination des aliments pour mettre en place des plans de surveillance de la qualité du lait, parce qu'il y a les enfants derrière, etc. etc. On sait que de toute façon, ce sera difficile. Donc, il vaut mieux écrire le mieux qu'on sait avant, en fixant des règles, et là, vous n'aurez pas de cafouillage. Parce que le cafouillage, il va venir de quoi ? Et ça, le préfet le sait très bien, l'État le sait. L'État a un souci primordial, c'est l'ordre public. Et l'ordre public, il ne peut l'asseoir que sur son pouvoir. Le pouvoir de la connaissance et des règles que lui établit. Et ça, il veut pas le perdre, ce pouvoir-là. Il ne veut pas le perdre, ce pouvoir. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'engager dans cette direction-là. Les seules leçons qui ont été tirées de Tchernobyl par les autorités françaises, en France, c'est quoi ? L'ordre a régné. Il n'y a pas eu de panique chez nous. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens sont un peu moins naïfs qu'à l'époque. C'est vrai, on était naïfs, hein, faut bien reconnaître. La Ferrade n'existait pas. Il n'y avait pas d'outils indépendants. Il n'y avait pas de balise indépendante. Donc aujourd'hui, il va falloir faire avec tous ces citoyens un peu plus vigilants, avec ces outils un peu indépendants. Et donc, il ne faut pas leur donner à tous ces pouvoirs indépendants, il ne faut pas leur donner les billes pour se faire battre. Voilà la logique qui est aujourd'hui, qui prévaut dans la gestion accidentelle en France. Je parle de la gestion directement après l'accident. Sur le long terme, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Mais sur le court terme, c'est en gros, faites-nous confiance. Ben, je suis désolé, on est revenu à 86 là, hein. Faites-nous confiance. Hein. Alors on en saura peut-être un petit peu plus parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des moyens un petit peu indépendants, mais tout est fait pour verrouiller les points, les pôles de décision importants qui sont restés entre les mains de l'État. Et je vous dis bien, le maître mot de tout ce qui ressort de tous les rapports français sur la gestion de Tchernobyl en France, c'est on a mal communiqué. Bon, on n'a pas été bon dans la communication. Par contre, l'information a été correcte et on a bien fait les choses. Et l'ordre a régné. Donc, s'il se produisait un accident en France, il faut d'abord que l'ordre règne. Et pour que l'ordre règne, bah, il faut essayer de brouiller les cartes. Parce qu'il y a eu Fukushima. Mais dans le fond, on ne touche jamais les vrais sujets qui fâchent.
En parlant de sujets qui fâchent, il y en a un. Là, c'est la polémique sur le réacteur numéro 4 de la centrale de Fukushima. Est-ce que tu peux expliquer donc le problème du séisme potentiel et de la fuite de liquide qui est dans la piscine et qui baigne 1500 bars ? qui sont difficilement récupérables.
Oui, c'est un des scénarios qui ne s'est jamais écrit avant, qui n'a jamais été écrit avant. On n'a jamais imaginé une piscine qui contient autant de cœurs de réacteurs usés, une telle quantité de radioactivité, qu'il faut donc refroidir, qu'il faut donc maintenir en eau, c'est indispensable, et qu'il soit fissuré. Et comme elle est en hauteur, si c'était une piscine au ras du sol encore, on pourrait se dire, on rajoute de l'eau, sauf comme elle est en hauteur, cette piscine, puisqu'elle est au niveau du bâtiment réacteur, c'est une piscine en l'air. Et si ça s'écroule, tout ça, je ne sais pas comment on va pouvoir...
Il va y avoir un laboratoire indépendant au Japon. J'ai entendu parler que la CRIRAD essayait de former du monde. Ça, tu peux le confirmer?
Mais plus qu'il va y avoir, il y a déjà même plusieurs labos. Ils ont même doublé, les Japonais, là-dessus. Nous, on les a aidés à créer un labo, une structure de mesure des aliments, il y a un an, au mois de mai exactement, l'année dernière. On leur a donné le pied à l'étrier, il y a un an. Et l'association qui s'est créée, qui s'appelle comme la cliente, s'appelle CRMS, avec qui on a un partenariat, ils sont d'une efficacité remarquable, puisque un an après, ils ont 5 centres de mesure sur Fukushima. Donc ils ont l'équivalent de 5 labos là-bas, donc 5 chaînes de comptage, totalement à la disposition de la population, et totalement sur un mode associatif. Et ça, alors là, je tire mon chapeau à un mec, parce que là, ce n'est pas une équipe, c'est un mec qui s'appelle Wataru Iwata, que les Romois peut-être connaissent parce qu'il est venu au mois d'août l'année dernière ici, qui a soulevé ces montagnes. Et là, bravo. Nous, la CRIRAD, c'est une équipe, c'est un travail partagé. Lui, c'est tout seul qu'il a remué des montagnes. Il est venu frapper à notre porte. On lui a donné un coup de main. Mais il a très vite appris et il a avancé. Alors nous, on va l'aider là, dans la mission qu'on a. C'est un, de lui donner la légitimité scientifique qui lui manque. Ce gars, il est musicien. Il n'est pas scientifique, il est musicien. Bon. Mais je peux vous dire qu'il a appris très très vite. Hein. Et deux, donc il n'est pas connu en tant que scientifique. Et donc il a besoin d'une légitimité scientifique. Donc on va lui apporter un peu de notre légitimité, et ça c'est important, mais aussi l'aider à calibrer ses appareils. Parce qu'il sait très bien comme nous que s'il fait une moindre erreur sur un échantillon, il sera flingué. Donc il a besoin de cette caution aussi, mais il a appris tout seul beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et très, très vite. Donc ça c'est le côté positif, je dirais, miraculeux presque, au milieu de toutes ces désinformations... démoralisante. C'est de voir qu'il y a des gens, des citoyens, qui se sont réveillés. Et le réveil était dur, mais ils se sont réveillés. Donc là, il y a un vrai travail qui est fait. Et ce gars, maintenant, il est passé à la télévision japonaise. Il est connu, il a un site internet, etc. C'est le CRMS, il s'appelle Wataru Iwata, ceux qui sont curieux. Et vous allez découvrir son travail merveilleux. Parce qu'en un an et des poussières, il a déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Merci Roland Desbordes pour votre intervention toujours aussi précise et en même temps bouleversante sur ces événements qui touchent notre planète. L'énergie qui vous anime pour faire vivre la CRIRAD, nous la partageons. En effet, c'est grâce à cette énergie que nous avons réussi à mobiliser 60 000 personnes lors de la grande chaîne du 11 mars 2012, reliant Lyon à Avignon. Un mois avant les élections présidentielles. Le 6 mai, une étape a été franchie. Mais malheureusement, la lutte est loin d'être terminée. Agnès nous en parlait tout à l'heure. Il y a des décisions qui nous mettent en colère. C'est pourquoi la dynamique qui existe depuis l'idée de la grande chaîne doit absolument se maintenir. Nous devons sans cesse rappeler la dangerosité du nucléaire. Bien sûr, on veut nous rassurer. Bien sûr, on veut nous prouver que dans notre douce France, une catastrophe identique à Fukushima, c'est impossible. Pour cela, inlassablement, nous devons être sur le pied de guerre, jusqu'à ce que l'on obtienne satisfaction. Fermer les centrales qui ont plus de 30 ans. Ne pas démarrer l'EPR qui nous ferait repartir pour 50 ans. C'est une guerre pacifique que nous vous invitons à mener en participant avec nous aux diverses manifestations dès la rentrée. Donc, dès la rentrée, un rassemblement sur les ronds-points, les 14 ou 21 septembre, on vous le précisera, à partir de 21h pour dire stop au gaspillage électrique. Puis, le 23 septembre, une chaîne humaine à Valence. Le 13 octobre, journée nationale antinucléaire. Pour le Sud-Est, rassemblement à la centrale du Bugey, où plusieurs chaînes convergeront. Le 25 novembre, chaîne humaine à Die, organisée par la nouvelle association antinucléaire qui vient de voir le jour. Enfin, en janvier, nous prévoyons un concert pour appeler à la mobilisation pour commémorer le 2e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Pour toutes ces précisions, vous pouvez aller sur le site contact@chainehumaine.fr. Alors, Atomic Mac fera une émission spéciale sur tout ce que vous voulez savoir sur le nucléaire sans avoir osé le demander. Enfants et adultes, posez vos questions sur notre répondeur gratuit au 08 05 69 67 58. Je répète, 08 05 69 67 58. Des scientifiques et militants, militantes de Sortir du nucléaire vous répondront. Merci pour ce temps partagé avec vous, Roland Lesbordes, et avec tous les participants ô combien militants, Agnès, Dominique, Georges, Alain
et Marie-Lise.
La CRIRAD édite de nombreuses publications et a participé à plusieurs ouvrages de référence. Alors, plusieurs titres. Contamination radioactive, Atlas, France et Europe, écrit par la CRIRAD et André Paris, aux éditions Yves Michel. Les armes à l'uranium appauvri, jalon pour une interdiction, aux éditions Grippe. Vous pourrez nous réécouter pour la prochaine émission le lundi 3 septembre à 12h15. Lors de cette émission, vous avez pu écouter Ridan dans la chanson « Elle pleure ma planète ». Et une petite chose humoristique, mobilisons-nous pour TEPCO par des auteurs anonymes et moqueurs japonais dont voici juste la traduction du refrain. Les compteurs GGR sont en rupture de stock. Vous n'avez pas besoin de posséder de tels instruments. Nous annoncerons les taux de radiation. Croyez et vous serez sauvés. Et maintenant, on lâche rien par HK et les Saltimbanques.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle,
et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires,